Sur le boulevard, des femmes faussement affairées sortaient des fiacres, des domestiques rentraient à leur suite, chargés de paquets. Des voitures de livraison s'arrêtaient devant les portes de service. Les chauffeurs discutaient avec des laquais raides, investis de leurs fonctions. On sentait qu'ils représentaient leur maître, surveillant les cageots de légumes, les corbeilles de pain avec un regard sévère, tandis qu'un peu plus loin, sur le trottoir, le long des grilles du jardin, deux jeunes femmes élégantes, longues comme des allumettes, bras dessus, passaient dans la rue en riant. À l'angle du boulevard, deux hommes se saluaient, un journal sous le bras, le haut de forme à la main, cher ami, à bientôt. Ils avaient l'air de juges au tribunal. L'un d'eux fit un pas de côté pour laisser place à un garçonnet en costume marin, courant et poussant un cerceau. La nurse se précipita en criant à voix basse, s'excusa auprès des messieurs. Une voiture de fleuriste arrivait et déchargeait des bouquets, de quoi faire un mariage. Il n'y avait pas de mariage, c'était seulement la livraison hebdomadaire. Il y a tellement de pièces, quand on a des invités, il faut prévoir. Je vous assure, ça coûte une fortune, mais... On dit ça en riant, c'est amusant d'acheter autant de fleurs. Nous, on adore recevoir. Albert regardait tout ce monde comme il avait vu, une fois, à travers les vitres d'un aquarium, des poissons exotiques qui avaient à peine l'air d'être des poissons. Il y avait près de 2 heures à tuer. Il hésita entre rester assis sur son banc ou reprendre le métro, mais où aller ? Avant, il aimait beaucoup les grands boulevards. Depuis qu'il les arpentait avec sa réclame des deux côtés, ça n'était plus pareil. Il déambula dans le parc, bien qu'en avance, il laissa passer l'heure. Lorsqu'il s'en rendit compte, son taux d'angoisse se mit à grimper. 19h15, il était en nage, marchait à grands pas en s'éloignant, puis tournant, virant, les yeux au sol. 19h20, il ne tranchait toujours pas. Vers 19h30, il repassa devant l'hôtel, trottoir d'en face, décida de rentrer chez lui, mais on allait venir le chercher et envoyer le chauffeur qui serait moins délicat que sa patronne. Les mille et une raisons qu'il retournait sans cesse se carambolèrent de nouveau dans sa tête. Il ne sut jamais comment cela se fit. Il monta les 6 marches du perron, sonna, essuya furtivement chaque chaussure derrière le mollet opposé. La porte s'ouvrit. Le cœur affolé dans la poitrine, le voici dans le hall haut comme une cathédrale, des miroirs partout. Tout est beau. Même la bonne, une brune aux cheveux courts, rayonnante, mon Dieu, ses lèvres, ses yeux. Tout est beau chez les riches, se dit Albert, même les pauvres. De chaque côté de l'immense vestibule dallée à grands carreaux noirs et blancs en damier, 2 réverbères à 5 globes encadraient l'accès à un escalier monumental en pierre de Saint-Rémy. Les 2 rampes de marbre blanc montaient en volutes symétriques vers le palier supérieur. Un imposant lustre art déco diffusait une lumière jaune qu'on aurait dite tombée du ciel. La jolie domestique toisa Albert, lui demanda son nom, Albert Maillard. Il regarda autour de lui, sans regret. Il aurait pu faire tous les efforts possibles, sans un complet sur mesure, des chaussures hors de prix, un haut de forme de marque, un smoking ou un queue de pie, n'importe quoi lui aurait donné cet air de plouc qu'il avait. Cet immense décalage, l'angoisse des jours passés, l'énervement de cette longue attente, Albert se mit à rire, simplement. On voyait qu'il riait pour lui-même, de lui-même, la main devant la bouche. C'était si spontané, si vrai, que la jolie bonne se mit à rire, elle aussi. Ses dents, mon Dieu, ce rire, même sa langue rose et pointue, était une merveille. Avait-il vu ses yeux en entrant ou était-ce maintenant seulement qu'il les découvrait, noirs, brillants ? Tous deux ne savaient pas de quoi il riait. Elle se détourna en rougissant, toujours riant, mais elle avait son service à assurer. Elle ouvrit la porte de gauche, le grand salon d'attente, avec le piano à queue, les hauts vases de Chine, la bibliothèque en merisier remplie de livres anciens, les fauteuils en cuir. Elle lui indiqua la pièce, il pouvait s'installer où il voulait. Elle arriva juste à dire « désolé » à cause de ce rire qu'elle ne parvenait pas à endiguer. Il leva les mains « non, non », riait au contraire. Maintenant, le voilà seul dans cette pièce, la porte est refermée. On va prévenir que M. Maillard est ici. Son fou rire est calmé. Ce silence, cette majesté, ce luxe vous en impose quand même. Il tâte les feuilles des plantes vertes. Il pense à la petite bonne. Oh, s'il osait. Il tente de lire les titres des livres, glisse l'index sur une marqueterie, hésite à appuyer sur une touche du grand piano. Il pourrait l'attendre à la fin de son service, sait-on jamais. A-t-elle un ami déjà? Il essaye un fauteuil, s'y enfonce, se relève, essaye le canapé, un beau cuir velouté. Il regarde et déplace distraitement les journaux anglais posés sur la table basse. Comment s'y prendre avec la jolie petite bonne? Lui glisser un mot à l'oreille à l'instant de partir? Ou mieux, faire mine d'avoir oublié quelque chose, sonner de nouveau, lui mettre un billet dans la main avec, quoi, son adresse, et puis, de toute manière, oublier quoi, il n'a même pas de parapluie. Toujours debout, il feuillette quelques pages de numéros du Harper's Bazaar, de la Gazette des Beaux-Arts, de l'Officiel de la Mode. Il s'assoit sur le canapé, ou bien l'attendre à la sortie de son service, ce serait le mieux. Réussir à la faire rire comme tout à l'heure. À l'angle de la table basse, un gros album couvert d'une jolie peau claire, veloutée et soyeuse comme tout. S'il fallait l'inviter à dîner, qu'est-ce que ça coûterait? Et d'abord, où aller? Encore un dilemme. Il saisit l'album, l'ouvre. Le bouillon du Val, ça va bien pour lui, mais... y inviter une jeune personne, impossible, surtout une comme elle qui sert dans les grandes maisons, même aux cuisines, ça doit être des couverts en argent. Soudain, son ventre se creuse, ses mains sont aussitôt moites, glissantes, il avale sa salive pour ne pas vomir, un goût de bile lui remplit la bouche. Devant lui, une photo de mariage, Madeleine Péricourt, et le capitaine d'Aulnay-Pradel, côte à côte. C'est lui, pas de doute. Albert ne peut pas se tromper. Tout de même, il faut vérifier. Il feuillette avec avidité. Pradel est sur presque toutes les photos, des clichés grands comme des pages de magazine. Il y a beaucoup de monde, des fleurs et des fleurs. Pradel sourit avec modestie, comme un gagnant à la loterie qui ne veut pas qu'on en fasse un plat, mais qui se laisse admirer. Mademoiselle Péricourt à son bras, radieuse, une robe comme personne n'en porte jamais dans la vie réelle, qu'on achète pour une journée, et des smokings, des cut-pieds, des toilettes inouïes décolletées dans le dos, des broches, des colliers, des gants beurre frais, les mariés serrant des mains, c'est bien lui, Pradel, des buffets ruisselants, ici, aux côtés de la jeune mariée, son père sans doute, Monsieur Péricourt, même souriant, il n'a pas l'air commode, cet homme-là. Et partout, des souliers vernis, des chemises à plastron, tout au fond, au vestiaire, les 18 reflets alignés sur les tringles de cuivre, et devant, des pyramides de coupes de champagne, des serveurs en costume et gants blancs, des valses, un orchestre, les mariés à nouveau sous la haie d'honneur. Albert tourne fébrilement les pages. Un article du Gaulois. Un mariage magnifique. On attendait beaucoup de cet événement si parisien, et l'on avait raison puisque ce jour-là, la grâce épousait le courage. Précisons, pour nos rares lecteurs qui l'ignoreraient encore, qu'il s'agissait rien moins que du mariage de Mademoiselle Madeleine Péricourt, fille de Marcel Péricourt, l'industriel bien connu, et d'Henri d'Aulnay-Pradel, patriote et héros. La cérémonie proprement dite, en l'église d'Auteuil, avait été voulue simple et intime, et seules quelques dizaines d'invités, familles et proches, auront eu la chance d'entendre l'admirable discours de Mgr Coindet. Mais c'est à la lisière du bois de Boulogne, autour de l'ancien pavillon de chasse d'Armenonville, qui associe l'élégance de son architecture Belle Époque à la modernité de ses équipements, que se tint la fête. De toute la journée, pas un instant où ne furent envahis par la société la plus éminente et la plus brillante, terrasses, jardins et salons. Plus de 600 convives, dit-on, ont pu admirer la ravissante jeune épousée dont la robe, tulle et satin duchesse, avait été voulue et offerte par Jeanne Lanvin, grande amie de la famille. Rappelons que l'heureux élu, l'élégant Henri d'Aulnay-Pradel, dont le nom est des plus anciens, n'est autre que le capitaine Pradel, le vainqueur parmi tant d'admirables faits d'armes de la côte 113, arraché aux Boches à la veille de l'armistice, quatre fois décoré pour d'innombrables actes de bravoure. Le président de la République, M. Raymond Poincaré, ami intime de M. Péricourt, a fait lui-même une discrète apparition, laissant à d'autres prestigieux invités, parmi lesquels M. Millerand, M. Daudet, ainsi que quelques grands artistes, Jean Dagnan Bouvray et Georges Rochegrosse, pour ne citer qu'eux, le loisir de profiter de cette fête exceptionnelle qui, n'en doutons pas, restera dans les annales. Albert referma l'album. La haine qu'il nourrissait pour ce Pradel était devenue haine contre soi. Il se détestait d'en avoir encore peur. Rien que ce nom, Pradel, lui donnait des palpitations. Une telle panique. Jusqu'à quand ? Presque un an qu'il ne l'avait pas évoqué, mais il avait toujours pensé à lui. Impossible de l'oublier. Il suffisait de regarder autour de soi pour voir la marque de cet homme partout dans la vie d'Albert, et pas seulement dans sa vie. Le visage d'Édouard, tous ses gestes du matin au soir, tout, absolument tout, venait de cet instant inaugural. Un homme court dans un décor de fin du monde, le regard droit, farouche, un homme pour qui la mort des autres ne compte pour rien, leur vie non plus d'ailleurs, qui percute de toutes ses forces un Albert désemparé, et ensuite ce sauvetage miraculeux dont on sait la conséquence, et maintenant ce visage crevé par le milieu, comme si, pour les malheurs, une guerre ne suffisait pas. Albert regarde devant lui sans rien voir. Voilà donc la fin de l'histoire, ce mariage. Il pense à son existence, bien qu'il ne soit pas très philosophe, et à Édouard, dont la sœur, en toute ignorance, a épousé leur assassin, à tous deux. Il revoit des images du cimetière, de nuit, ou d'autres, la veille, lorsqu'est apparue la jeune femme avec ce manchon en hermine, le brillant capitaine Pradel à ses côtés, en sauveur, et puis, en route vers la tombe, Albert, assis à côté de ce chauffeur qui sent la transpiration, qui passe d'un coup de langue son mégot d'un coin à l'autre de sa bouche, tandis que Mademoiselle Péricourt et le lieutenant Pradel sont tous les deux dans la limousine. Il aurait dû se douter. Mais Albert ne voit jamais rien. Il tombe toujours de l'armoire, à se demander s'il va grandir un jour, ce garçon. Même une guerre ne lui a rien appris. C'est à désespérer. Le cœur, à la découverte de ce mariage, lui battait tout à l'heure à une cadence vertigineuse, mais maintenant, il le sent fondre dans sa poitrine, prêt à s'arrêter. Ce goût de bile au fond de la gorge, une nouvelle nausée l'assaille qu'il réprime en se levant et en quittant brutalement la pièce. Il vient de réaliser, le capitaine Pradel est ici, avec Mademoiselle Péricourt. C'est un piège qu'on lui a tendu, un repas en famille. Albert va devoir dîner en face de lui, supporter son regard acéré, comme chez le général Morieux quand il était question de l'envoyer devant le peloton. C'est insurmontable. Cette guerre n'en finira donc jamais. Il faut partir, immédiatement. Rendre les armes, sinon il va mourir, se faire tuer une nouvelle fois. S'enfuir. Albert bondit sur ses pieds, traverse la pièce en courant. Il est à la porte, elle s'ouvre. Devant lui, Madeleine Péricourt, souriante. « Vous êtes ici !» dit-elle. C'est comme si elle l'admirait, on ne sait pas de quoi, d'avoir trouvé le chemin peut-être, d'avoir trouvé le courage. Elle ne peut s'empêcher de le regarder de la tête aux pieds. Albert baisse les yeux à son tour. Il le voit bien maintenant, ses souliers neufs, brillants, avec ce costume trop court, élimé. C'est pire que tout. Il en était si fier, il les a tant désirés. Ses souliers neufs hurlent sa pauvreté. Tout son ridicule est concentré là. Il les déteste, il se déteste. « Allez, venez !» dit Madeleine. Elle le prend par le bras, comme une camarade. « Mon père va descendre. Il a hâte de vous rencontrer, vous savez. »